9h-11h, Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour faire le tour de la question avec vous, Julie. Bonjour.
Bonjour, Wendy.
Avec les invités que je vous présente dans un instant et avec vos témoignages au service de cette actualité et la pénalisation des clients de prostituées qui revient dans le débat. Des associations de travailleurs du sexe ont déposé une question au Conseil constitutionnel pour abroger cette loi de 2016. Une loi qui plongerait les prostituées dans une précarité plus grande. Elle pointe du doigt la responsabilité des politiques en la matière. Alors on va rouvrir le débat engagé avant 2016 pour en comprendre les enjeux et vous réagissez 3 ans après. Si vous êtes client notamment, vos appels sont anonymes, on vous l'assure, n'hésitez pas à réagir au standard d'Europe 1. Et puis à 10h, on va parler des troubles du langage et de l'apprentissage alors que la Fédération des orthophonistes lance cette semaine une action de prévention contre la dyslexie qui toucherait 7 à 8% des enfants. Dyslexie, dyspraxie, que se passe-t-il dans notre cerveau, dans leur cerveau? Là encore, on vous attend et on vous écoute, Julie.
Au 39-21, c'est notre standard. Et pour les réseaux sociaux, vous utilisez le hashtag Europe 1.
Bienvenue jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec le Conseil constitutionnel qui examine donc depuis hier la question déposée par 9 associations et par une trentaine de travailleurs du sexe qui s'opposent à la loi d'avril 2016 qui pénalise les clients des prostituées. Des clients qui ont dû acquitter 3000 amendes ces 3 dernières années sous le coup d'un texte qui pour les prostituées, pour certaines en tout cas, précarise la profession. Sarah-Marie Maffé-Solly, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Coordinatrice chez Médecins du Monde, une des associations à l'origine de cette question prioritaire de constitutionnalité. Pourquoi l'avoir déposée hier? Pourquoi avoir attendu 3 ans? Vous vouliez déjà un bilan de cette loi 2016?
En effet, immédiatement après l'adoption de la loi du 13 avril 2016, nous avons collaboré avec des chercheurs afin de mener une étude d'impact sur la pénalisation des clients, sur les conditions de vie et de travail des travailleuses du sexe. Et nous avons sorti cette étude d'impact au mois d'avril 2018, soit 2 ans après l'entrée en vigueur de la pénalisation des clients. Et elle montre très clairement, de manière sans appel, que les conséquences pour les travailleuses du sexe de la pénalisation des clients sont catastrophiques.
Vous allez nous en parler des conséquences. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Vous qui êtes travailleuse du sexe, adhérente du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Cette loi a vraiment changé votre manière d'exercer votre travail?
Tout à fait, oui. Le changement a été drastique et immédiat du jour au lendemain. En fait, on a vu une modification
du comportement
et surtout du nombre de clients. Il y a eu une chute notoire du nombre de clients. Et donc, nous avons eu l'obligation finalement d'accepter des gens qu'avant on n'acceptait pas parce qu'on n'avait plus le choix. Et du coup, forcément, il y a eu de plus en plus d'incidents, d'incivilités, d'agressions, avec une chute conséquence de nos revenus. Donc, on a bien noté une précarisation, que ce soit pour moi, comme toutes mes collègues.
Alors que cette loi a été faite pour vous protéger, pour moins précariser le métier, vous avez constaté, vous, tout l'inverse?
Tout à fait. Elle va complètement à l'encontre du but qu'elle s'était fixé.
Maître Spinozzi, bonjour Maître.
Bonjour.
Vous êtes avec nous et vous défendez notamment cette démarche des travailleuses du sexe qui demandent à revenir sur cette loi 2016. Sur quel élément du texte le Conseil constitutionnel peut-il se prononcer?
Sur le principe même d'une pénalisation générale et absolue de tous les clients de la prostitution. Et nous dénonçons une schizophrénie de la loi en ce que, en droit français, l'activité de prostitution est parfaitement légale. Vous avez la possibilité de l'exercer et de vous inscrire pour le faire, alors que la clientèle de la prostitution est-elle illicite, interdite. Donc, juridiquement, il y a là une difficulté dont le Conseil constitutionnel est saisi et qui pourrait très bien l'amener à abroger le texte tel qu'il existe aujourd'hui.
Pour voir aussi si cette loi respecte finalement les droits fondamentaux, parce que la prostitution relève aujourd'hui dans le droit de la liberté d'entreprendre.
Oui, mais pas seulement de la liberté d'entreprendre. En fait, à partir du moment où cette activité est illicite, ça veut dire que l'ensemble des prostituées bénéficient de la garantie des droits, c'est l'autonomie personnelle, le droit de disposer de son corps, le droit de consentir le cas échéant à une prestation sexuelle tarifée, le droit d'entreprendre en tant que travailleur indépendant, et l'ensemble de ces libertés fondamentales aujourd'hui garantissent à ces prostituées la possibilité de pouvoir exprimer leur choix et de ne pas se retrouver dans la situation où la loi les met, d'être infantilisées, un peu comme des majeurs incapables de pouvoir exprimer leur consentement.
Alors on a entendu les arguments qui souhaitent revenir sur cette loi 2016. Grégoire Thiré est avec nous, porte-parole du mouvement du NID, qui est une association féministe et abolitionniste. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous pensez évidemment tout le contraire. Vous considérez que la loi de 2016, qui est née d'une volonté de mieux protéger les travailleurs du sexe, doit perdurer. Pour quelle raison, Grégoire Théry?
Bah écoutez, d'abord, ce qui est demandé aujourd'hui au Conseil constitutionnel par Maître Spinozzi et les parties requérantes, c'est de consacrer un droit constitutionnel, celui des hommes à imposer un acte sexuel par l'argent. Leur démonstration, j'ai lu les écritures, j'étais à l'audience au Conseil constitutionnel, elle consiste à dire que la prostitution, c'est un marché comme un autre. Ça ne peut pas être une violence, ce n'est pas une exploitation, ce n'est pas un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et du coup, il faut que le législateur ne s'en mêle pas et que seule la loi du marché régisse la question prostitutionnelle. Sur la question de la précarité, moi, je suis très choqué par ce que j'ai entendu. Mon association, elle rencontre et elle accompagne 5000 personnes prostituées par an dans 28 départements. Et ce que je viens d'entendre sur le fait qu'il y aurait moins de clients, des pouvoirs de négociation plus difficiles, qu'il ne resterait que les pires clients et que du coup on devrait accepter des choses qu'on n'acceptait pas avant, je l'entends personnellement depuis 15 ans sur les lieux de prostitution. Je vais une semaine sur deux depuis 15 ans sur les lieux de prostitution et j'entends cela. Sauf qu'en 2004, quand j'ai commencé les rencontres sur les lieux de prostitution, on me disait c'est à cause des Nigérianes. Maintenant que les femmes nigérianes sont là, elles acceptent tout à n'importe quel prix, on a de moins en moins de clients, on a moins de pouvoir de négociation, on accepte des actes qu'on n'acceptait pas avant. En 2008, j'ai commencé à l'entendre à propos de la crise financière. Il y a moins de clients, il ne reste que les pires. Du coup, on est obligé d'accepter des choses qu'on n'acceptait pas. À partir de 2010, je l'ai entendu à propos d'Internet. C'est vrai que la prostitution, bien avant la loi de 2016, avait basculé vers Internet. Donc il y a une instrumentalisation d'une détresse réelle des personnes prostituées.
Mais attendez, oui, Grégoire Théry, je vous entends, mais quel est l'intérêt? Parce que vous mettez en cause et puis vous allez avoir un échange nourri jusqu'à 10h. Mais Anaïs, quel est l'intérêt de porter ce discours, Anaïs, pour vous, alors que voilà, c'est votre métier, votre mission?
Concrètement, si cette loi avait effectivement des effets positifs, j'ai aucune raison de déposer une requête.
Oui.
Moi, si je suis partie prenante dans cette affaire, parce que je suis requérante, c'est que concrètement, moi, j'ai vu des gens autour de moi qui étaient autonomes avant la loi et qui maintenant doivent travailler dans des salons. Des gens qui étaient autonomes et qui doivent passer par des intermédiaires. Des gens qui étaient autonomes et qui vivaient correctement et qui sont fait tabasser.
Ah oui, oui.
Donc, il arrive un moment où on se dit il faut faire quelque chose, où je ne peux pas juste me contenter de constater les dégâts. Alors, j'entends bien ce que dit M. Théry. Mais je pense qu'il a une vision du travail sexuel qui est peut-être biaisée par, je ne sais pas, ses convictions personnelles et sa morale. Moi, les clients que j'ai ne sont pas des gens qui s'imaginent que sous prétexte qu'ils paient, ils ont tous les droits. Non, ils demandent un service. Si nous arrivons
ils
à un accord,
ils ne vous imposent pas.
On m'a jamais rien imposé.
Mais là, on est dans une opposition de peut-être morale ou
on
de principe.
On est tout à fait
Grégoire
dans une opposition morale et de principe.
Oui, abolitionniste, vous considérez que le client impose un acte sexuel. Alors évidemment, il y a peut-être différents profils aussi de travailleurs du sexe qu'il faut entendre, Grégoire Théry. Et que vous côtoyez.
Attendez, moi, je rencontre depuis 15 ans des personnes prostituées dont certaines me disent que c'est leur choix, qu'elles consentent, etc. Mais de la même façon qu'en France, il y a des centaines, parfois des milliers de personnes qui, toujours les plus précaires, toujours les plus vulnérables, peuvent accepter un travail qui est rémunéré moins que le SMIC. Et ça n'empêche pas qu'on ne veut pas les condamner. Par contre, on ne donne pas un pouvoir à leur employeur de dire, puisqu'elles consentent, moi, je tire profit de leur situation précaire pour leur imposer un travail rémunéré moins que le SMIC.
Alors,
on dit exactement la même chose sur la prostitution. Et sur la morale, juste un mot quand même.
Oui.
Parce que j'ai entendu Maître Spinozzi, pendant toute l'audience, dire que le législateur avait été moralisateur, etc. Mais quelle est cette morale? Ce que M. Spinozzi appelle la morale, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la lutte contre les violences sexuelles. Voilà la morale du législateur. Le législateur a reconnu qu'effectivement, c'était un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes d'imposer un acte sexuel par l'argent. Et quel est le pragmatisme dont se revendiquent les associations requérantes et Maître Spinozzi? Ce pragmatisme, c'est une vision ultralibérale. C'est de dire la prostitution est un marché. Et hier, pendant l'audience, on a oscillé entre deux discours. D'un côté, on nous disait les personnes prostituées sont extrêmement vulnérables et la loi empire leur situation. Et de l'autre, les mêmes acteurs nous disaient ce sont des entrepreneurs du sexe indépendantes qui choisissent, qui n'ont pas de problème, donc ne vous mêlez pas de leur activité.
Oui.
Et ça, c'est quand même une grande incohérence.
Mais Grégoire Théry, on va repartir là-dessus. J'ai donné la parole à Maître Spinozzi juste après la pause. Maître, vous gardez, s'il vous plaît, votre parole juste après la pause, parce qu'il y a ce problème de fond aussi, c'est-à-dire cette liberté d'entreprendre, ce travail qui est légal en France. Donc la schizophrénie dont parlait Maître Spinozzi, voire l'hypocrisie aussi de l'État sur cette question. On en parle juste après. Le débat, en tout cas, est posé avec les différents acteurs et on recevra dans un instant instant. Rosanne Hirscher, qui a été prostituée pendant 20 ans, qui est porte-parole désormais du mouvement des survivantes. A tout de suite sur Europe 1, on vous donne la parole jusqu'à 10h sur la prostitution et la pénalisation des clients.
Faut-il revenir sur la loi de 2016 qui pénalise les clients des prostituées? C'est le sujet jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Absolument, alors que les sages du Conseil constitutionnel examinent depuis hier un recours contre les dispositions de cette loi qui sanctionne l'achat d'actes sexuels, nouvel épisode de la bataille entre partisans et adversaires de la pénalisation des clients de la prostitution que vous entendez s'exprimer jusqu'à 10h sur Europe 1. Je vais vous donner la parole, Maître Spinozzi, vous vouliez répondre à Grégoire Théry, lui qui défend cette loi, qui soutient l'association féministe le nie, abolitionniste. Maître Spinozzi, vous êtes requérant et vous soutenez les associations de travailleuses du sexe qui vous ont demandé de porter cette question prioritaire de constitutionnalité.
Oui, juste un mot pour répondre à Monsieur Théry sur la prétendue incohérence de notre position. Il n'y a absolument aucune incohérence en réalité. Il y a deux types de prostituées. Il y a les prostituées dont on a parlé jusqu'à présent, qui sont des prostituées qui cherchent à exister et qui sont capables de pouvoir exprimer leur consentement et qui, à ce titre, revendiquent le droit de pouvoir exercer leur activité. Et puis, il y a d'autres prostituées qui sont celles qui sont contraintes par les réseaux, par les proxénètes, et qui vivent dans une détresse qui est une détresse extrêmement importante. Et en réalité, la loi, elle a été créée avec comme finalité uniquement la protection de ces prostituées-là, qui, les chiffres ne sont pas très clairs, mais ne représentent pas la majorité de la prostitution en France. Et il y a eu une volonté dogmatique de dire, on va avec cette loi tarir les réseaux de prostitution. Sauf que, et c'est tout le problème, et il n'y a aucune incohérence là-dessus, sauf que, en pratique, la réalité de cette loi, elle a abouti à fragiliser ces prostituées-là, les plus démunies, celles qui travaillent dans la rue, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, parce que cette pénalisation de la clientèle, elle a précarisé ces femmes, parce que ces hommes ne veulent plus être vus, donc ils s'isolent dans des lieux qui sont nécessairement dangereux pour ces femmes, parce que elles ne peuvent plus faire appel soit à des personnes autour d'elles, et pour Médecins du Monde par exemple, c'est devenu quelque chose de très difficile de pouvoir assurer leur suivi sanitaire. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'incohérence dans notre position. Il y a juste la défense, justement, des deux catégories de prostituées, à la fois celles qui sont libres de pouvoir exprimer leur consentement, qui ont des droits, et celles qui ne le sont pas, qui se voient dans une situation pire que celle dans laquelle elles étaient auparavant.
Je voudrais qu'on donne la parole à Rosanne Hirscher, ancienne prostituée, porte-parole du mouvement des survivantes. Bonjour madame.
Bonjour.
Parce que voilà, vous êtes dans un clan bien défini de ce que vous avez constaté. Vous avez exercé ce métier pendant 20 ans. Aujourd'hui, vous tentez de sortir de la prostitution un certain nombre de femmes. Vous soutenez le fait que cette pénalisation des clients est une bonne chose pour le salut de ces travailleurs du sexe.
Très bonne chose. Vous savez, depuis la nuit des temps, tous les 10, 15, 20 ans, on essaye de trouver des solutions. Mmh. Aujourd'hui, on a une loi qui a avancé. On s'est rendu compte que les personnes en situation de prostitution étaient des victimes, que ce soit les femmes libres, comme je l'ai été. Moi, j'ai aussi revendiqué le droit. Et je me suis rendu compte que mon passé était bien le fait que j'étais tombée dans la prostitution.
Que vous ne l'aviez pas choisi, c'est ça que vous voulez dire ? Réellement.
Je n'ai absolument pas choisi. Si j'avais choisi librement, vous comprendriez bien qu'aujourd'hui, je ne me battrais pas pour que ces femmes puissent avoir un autre choix et un choix de femme libre.
Oui, mais par exemple, Anaïs qui est avec nous, vous avez choisi votre métier aujourd'hui.
Tout à fait. Enfin, je veux
dire, votre passé, pardon, mais
c'est éclairant
sur ce que
vous faites. C'est une décision totalement réfléchie. Mmh. J'ai été cadre d'entreprise pendant de nombreuses années. Si aujourd'hui j'exerce cette activité, c'est évidemment par nécessité économique. C'est-à-dire que je dois travailler, donc gagner un salaire.
C'est-à-dire que vous gagnez plus en faisant ce métier-là qu'en étant cadre d'entreprise ?
Je dirais que ma vie est plus confortable. Je ne gagne pas forcément plus. Mais j'ai trouvé un rythme de vie qui était plus sain et je ne subis plus les pressions que je subissais en tant que cadre d'entreprise.
Mais pardon, mais vous exercez dans la rue ou vous êtes
Moi, je suis sur Internet.
Vous êtes sur Internet.
D'accord. Oui, tout à fait. Donc je n'exerce pas dans la rue.
D'accord. Donc ça veut dire que vous avez choisi aussi peut-être un domaine qui vous protège davantage ? Un univers qui protège davantage ?
Non, je pense que c'est plutôt une façon d'exercer qui me convient mieux. J'ai des collègues très très proches, hein, des amis proches qui travaillent dans la rue, dont je pense à une collègue qui travaille dans la rue depuis 15 ans. Et qui n'aime pas travailler sur Internet. Mmh. C'est vraiment un choix professionnel par rapport à sa façon d'exercer. Et ça, il y a des situations très, très différentes. Mmh. C'est pour ça qu'une loi unique pour l'exercice du travail sexuel n'a aucun sens, puisque le panel de l'exercice du travail sexuel est extrêmement diversifié et les gens qui sont dans l'activité sont extrêmement diversifiés.
Quand on fait ce métier sur Internet, de fait, les clients sont mieux protégés par l'anonymat, par le fait que...
Concrètement,
oui.
Ce qui ne les empêche pas d'avoir peur, ce qui nous impose donc les mêmes mesures que pour les personnes qui travaillent dans la rue. C'est-à-dire qu'on doit s'isoler plus, leur assurer de la sécurité, et ce qui nous met, nous, dans des situations délicates, puisqu'on se retrouve la cible de personnes qui savent qu'on est obligé de s'isoler et qui en profitent pour se faire passer pour des clients alors qu'ils ne sont, par exemple, que des braqueurs. Moi, ça m'est arrivé récemment.
Ah oui. Évidemment, Sarah-Marie Maffesoli, vous représentez Médecins du Monde, et tout à l'heure Maître Spinozzi parlait de ces femmes en détresse, de ces réseaux notamment quasiment d'esclaves sexuels. Vous les avez vus aussi, constatés. C'est aussi contre ces réseaux-là que cette loi a été mise en place, et Grégoire Théry le rappelait aussi.
Oui, c'est, je veux dire, un des objectifs de la loi, c'est la lutte contre la prostitution, parce qu'il y a un amalgame absolu qui est fait entre prostitution et traite des êtres humains.
Déjà, c'est un amalgame et une vérité aussi.
Non, mais il y a un amalgame qui est fait entre prostitution et traite des êtres humains, ce qui ne veut pas dire que la traite des êtres humains n'existe pas. Ça veut simplement dire que la traite des êtres humains existe dans beaucoup de secteurs d'activité. Ça existe également dans le domaine du travail sexuel. Maintenant, la meilleure manière de lutter contre l'exploitation des personnes, c'est de donner des droits aux personnes et non pas de les précariser. Dans le code pénal, il y a déjà toutes les infractions nécessaires pour lutter contre l'exploitation des personnes. Il y a la pénalisation de la traite des êtres humains, la réduction en servitude, en esclavage. Tout ça existe. Il y a tous les outils pour lutter contre les violences sexuelles, contre les violences physiques. Tout ça existe. Donc, à un moment donné, l'enjeu, si c'est de garantir l'accès aux droits et aux soins des personnes, il n'était pas nécessaire de céder à l'inflation législative et d'inventer une nouvelle infraction. Nous avions les outils nécessaires. Maintenant, la question, c'était, est-ce que l'enjeu, c'est véritablement de lutter contre l'exploitation des personnes, et auquel cas, il faut accorder des moyens à la fois, bien évidemment, aux forces de l'ordre, mais également aux associations, pour qu'elles puissent rentrer en contact avec ces personnes et leur permettre d'avoir un accompagnement vers l'accès aux droits. Ou alors, est-ce que l'enjeu, c'est un enjeu idéologique de lutte contre la prostitution et, d'une certaine manière, un petit peu aussi de nettoyage des rues, puisqu'on masque toujours plus, on cherche toujours plus à reculer la prostitution vers des lieux invisibles.
Grégoire Théry, intéressant l'argumentaire à l'instant de la coordinatrice chez Médecins du Monde, Grégoire Théry.
Très intéressant. Moi, je rappellerai, vous avez noté que votre intervenante n'a pas réagi sur la loi sur le proxénétisme.
Non, mais on peut faire réagir Maître Spinozzi. Aujourd'hui, le proxénétisme est pénalisable et interdit.
Juste un mot sur notre action. L'association syndicat du travail sexuel qui est sur votre plateau
Anaïs,
milite publiquement pour l'abrogation des lois sur le proxénétisme. C'est une réalité, c'est en ouverture de leur site web. Ce que je veux dire ici, c'est que quand on introduit
c'est pas notre action.
C'est ce que font les requérants.
C'est
pas votre action, mais cette association milite pour cela.
Oui,
quand on introduit une distinction entre ce qui s'appelle la bonne prostitution consentie et la mauvaise traite des êtres humains, c'est ce que vous faites. Les très rares pays au monde qui ont fait cela ont tous dépénalisé le proxénétisme. L'Allemagne, le Pays-Bas, quand ils ont reconnu qu'il fallait distinguer le bon travail du sexe légitime et la mauvaise traite des êtres humains, qu'ont-ils fait ensuite ? Ils ont dépénalisé le proxénétisme puisqu'ils ont dit c'est un marché, ça travaille comme un autre.
Voilà, pardon,
il est légitime.
On n'en est pas là, parce que là, aujourd'hui, les clients sont pénalisés. Donc, passons peut-être la première étape.
Mais
Je voulais vraiment que vous réagissiez sur les filières.
Pardon, sur les filières ?
Je voulais vraiment que vous réagissiez sur les propos de Sarah-Marie Maffesoli.
Très bien. Oui. Eh bien, la loi aujourd'hui, on ne parle que de la pénalisation des clients. Moi, je vous rappelle que cette loi, qui est une loi globale, qui a amendé 9 codes législatifs, elle a dépénalisé pour la première fois depuis 1939 les personnes prostituées qui ne peuvent plus être poursuivies au titre de délit de racolage. Elle a octroyé un titre de séjour aux personnes prostituées, même quand elles ne peuvent pas ou ne veulent pas dénoncer leur réseau. Avant, c'était conditionné. 6 mois renouvelables 3 fois, avec accès au marché du travail. Ensuite, vous pouvez avoir une carte de résident. Elle a accordé une aide financière de 330 euros seulement, certes, mais pour des personnes qui ne bénéficiaient d'aucun minima sociaux. Elle a reconnu que toute forme de violence sexuelle, physique, etc., est une circonstance aggravante des violences, alors qu'avant, les policiers nous disaient « oui, voilà, mais elles l'ont bien cherché, c'est leur problème ».
Est-ce que la loi n'était pas suffisante, Grégoire Théry ? Parce que Sarah parlait d'inflation législative. Est-ce que vous n'aviez pas l'arsenal suffisant ?
Non, mais là, je vous parle de la même loi. Là, je parle de la loi de 2016. Oui. Hein. Et pourquoi, mais pourquoi elle a fait tout cela ? Et pourquoi elle a octroyé aussi une remise gracieuse des dettes fiscales, un accès prioritaire au logement social ? Eh bien, précisément parce que pour la première fois, cette loi, elle a reconnu que la prostitution était une violence, que c'était un obstacle à l'égalité. Si on dit que c'est un travail comme un autre, vous pouvez oublier les titres de séjour protecteurs parce que vous êtes victime, l'aide financière pour vous réinsérer socialement, la remise gracieuse des dettes fiscales. La prostitution n'est pas reconnue comme un travail en France, je ne suis pas d'accord avec Maître Spinozzi. Le législateur a dépénalisé les personnes prostituées, mais pas du tout pour reconnaître un travail du sexe, au contraire, parce qu'il avait considéré que la prostitution était une violence. Et pourquoi on fait une remise gracieuse des dettes fiscales si c'est un travail comme un autre ? Les personnes qui veulent sortir de la prostitution et s'insérer professionnellement,
on va y revenir avec
la loi française, peuvent se voir remettre leur dette fiscale.
Petite pause, Grégoire Théry, je ne vous coupe pas la parole, simplement je vais faire une petite pause et ensuite on poursuit ce débat très intéressant et délicat sur ce sujet. Des pour, des contre, pour revenir sur la pénalisation des clients, des prostituées, requête déposée auprès du Conseil constitutionnel. A tout de suite sur Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et ses invités. On va rappeler la question Facebook qu'on vous a posée. Selon vous, faut-il continuer à pénaliser les clients des prostituées ? Non à 73%. Quelques messages comme celui de Dominique. Cette loi est une ineptie. Les prostituées sont obligées d'aller dans des endroits isolés et sont victimes d'agressions. Comme quoi, avant de promulguer une loi, il faut réfléchir aux conséquences. Autre message de Rémi. Il faut pénaliser les proxénètes qui font travailler les femmes sans leur consentement et ouvrir des maisons closes contrôlées par les services sociaux. La réouverture des maisons closes revient souvent dans vos messages.
Absolument.
Comme celui de Mickaël, il faut ouvrir à nouveau les maisons closes tout en donnant un cadre pénal et protecteur pour les travailleuses et travailleurs du sexe. Le proxénétisme et tout ce qui en découle doit être, lui, vigoureusement combattu.
Intéressant ces messages. On va revenir sur les maisons closes, par exemple. En quelques secondes, Maître Spinozzi, je voudrais juste que vous nous disiez, pour répondre à Grégoire Théry point par point, que votre requête au Conseil constitutionnel ne concerne que cet article de la loi sur la pénalisation des clients. Il n'est pas question de revenir sur les autres termes de la loi tels qu'il les a évoqués.
Oui, les détracteurs de notre démarche sont dans une logique où ils disent de toutes les façons, s'il n'y a pas de pénalisation des clients, tout tombe et c'est le marché de la jungle. Pas du tout, en réalité. La seule chose que nous demandons au Conseil constitutionnel, la seule chose dont il est saisi, c'est de la question de la pénalisation, la généralisation de la pénalisation de la clientèle de la prostitution. Et seulement ça. Cela veut dire quoi ? Que si demain nous obtenions satisfaction, tout le reste serait maintenu. Aussi bien les lois dont on a parlé qui interdisent le proxénétisme, la traite, la prostitution des mineurs, que les parties bénéfiques de la loi de 2016 qui ont été citées par M. Théry, c'est-à-dire les parcours d'accompagnement de la prostitution. Donc, en réalité, la seule chose qui est aujourd'hui en cause, c'est la pénalisation des clients de la prostitution. Et il n'y a pas deux modèles de droit entre abolitionnistes et totalement laxistes. Il y a des modèles qui sont très courants en Europe où, en réalité, la prostitution, comme c'était le cas auparavant, est possible, mais où les clients ne sont pas, eux, pénalisés, mais en revanche, évidemment, les proxénètes le sont, évidemment, les réseaux le sont, évidemment, la prostitution des mineurs est interdite. Donc, c'est ce modèle-là, et pas un autre qui est recherché.
Eh bien, sur ces bases, je vais donner la parole dans un instant à Rosane Hirscher, qui a été prostituée 20 ans, qui porte parole maintenant du mouvement des survivantes qui tentent de sortir ces prostituées de leur métier, et Anaïs, travailleuse du sexe, qui requiert justement auprès du Conseil constitutionnel deux visions du métier. À tout de suite.
Faut-il revenir sur la loi de 2016 qui pénalise les clients des prostituées ? On poursuit le débat avec Wendy Bouchard.
Et avec de nombreux invités aujourd'hui, 3 ans après cette loi, les travailleurs du sexe, certains en tout cas, font le constat suivant. La pénalisation des clients a fait baisser leurs revenus, les a obligés à accepter des rapports non protégés ou à exercer dans des endroits plus isolés, à l'écart de la police où ils sont davantage exposés aux agressions. Ça a été aussi souligné par l'étude d'impact que vous avez menée pour Médecins du Monde. Vous nous en parliez, Sarah-Marie Maffesoli. Maître Spinozzi est avec nous, juriste et avocat des opposants. Grégoire Théry, porte-parole du mouvement d'UNI, association féministe féministe et abolitionniste. Et donc en studio, Anaïs, travailleuse du sexe, et au téléphone, Rosane Hirscher, ancienne prostituée et porte-parole du mouvement des survivantes. Je voudrais, Rosane Hirscher, que vous en parliez davantage de cette loi et de cette hypocrisie d'État, parce qu'on a le sentiment, vous qui avez exercé 20 ans, qu'on est dans une schizophrénie que mettait en avant Maître Spinozzi. On ne peut pas toucher à la légalité de la prostitution, donc on pénalise les clients. Quel sens cela a-t-il pour vous, quand même, sur le fond?
Alors, de toute façon, pour moi, le client, il faut arrêter de parler du client de la prostituée. Le client est le client du proxénète, puisque la prostituée est un produit pour eux.
Oui, mais il y a beaucoup de prostituées qui exercent sans référent, hein, en autonome.
Il y en a combien? Il y a, allez, 20%, on va dire. Toutes les autres sont
des
victimes
de
la
traite. C'est difficile de donner des chiffres, hein, oui.
Je peux vous assurer, j'ai fait moi une synthèse dans ma région, on était à peu près 5 à 10% de femmes libres. Oui. Moi, quand je travaillais sur Sainte à l'époque, il y avait une dizaine de Nigérianes qui sont arrivées là, qui travaillaient, qui étaient prises dans des réseaux. Il faut savoir qu'en Charente-Maritime, on était 6-7 à être déclarées. J'en avais une dizaine devant chez moi de pauvres femmes victimes de la traite. Donc, la loi, pour moi, est faite pour protéger le plus grand nombre de victimes. Et la loi est faite pour que, justement, ce plus grand nombre qui soit protégé.
Est-ce que la loi... On vous entend pas très bien, Rosane. Je ne sais pas si vous pouvez bouger un petit peu. Est-ce que la loi est faite pour vous, au final, et au bout du bout, vous qui êtes sortie de ce métier, abolir la prostitution, si tant est que ce soit possible? Parce qu'on a le sentiment que vraiment, vous avez tourné une page et que vous voulez que ce métier n'existe plus.
Vous savez, quand on l'a vécu pendant 22 ans, qu'on a failli mourir des dizaines et des dizaines de fois. Première fois, j'ai failli avoir la vue brisée. Quand on a eu peur, quand on vit avec la boule au ventre, l'envie de vomir, je peux vous assurer que cette loi est la seule loi qui peut aider ces femmes. 22 ans de souffrance, de violence sexuelle, de coups.
Mais pardon Rosane, mais est-ce qu'on vous a obligé à faire ce métier, ou est-ce que votre vie vous y a obligé?
Mon passé m'y a obligé. C'est mon passé, ma vie d'enfant, ma vie d'épouse.
C'est-à-dire une vie violente, de violence sexuelle dès l'enfance?
Dès l'enfance, à 13 ans, j'étais abusée par un oncle. À 16 ans, j'étais abusée et violée par un ami de mon père. J'ai fait 15 jours de formation accélérée dans un réseau. J'ai été sauvée in extremis par un de ce qu'on appelle des rabatteurs. J'ai vécu 15 ans avec un homme d'une extrême violence. Et quand je suis tombée dans la prostitution, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'ai fait. Je suis tombée dedans. Pour moi, c'était la seule option.
Oui.
C'était pour 15 jours, 3 semaines. Je suis restée 22 ans. Vous vous rendez compte, 22 ans?
Oui, j'ai du mal à imaginer, parce que c'est terrible le constat, le tableau que vous nous dressez. Sarah-Marie Maffesoli, c'est un profil de prostituée qu'on retrouve quand même avec le stigmate des violences, du passé, etc. Mais là, Rosane n'a pas choisi véritablement sa vie. Pardon, je vais redonner la parole à Anaïs plutôt. Alors que vous avez choisi, vous étiez cadre d'entreprise, vous avez choisi de devenir travailleuse du sexe et vous exercez via Internet pour les annonces.
Alors,
mais vous comprenez aussi que ce profil existe.
Tout à fait. Je comprends tout à fait ce que dit Rosane, et je vois, en écoutant, je comprends effectivement son parcours et la souffrance qu'elle a dû endurer, parce qu'effectivement, ce qui l'a amené à exercer l'activité, de toute évidence, ce sont des violences terribles. Et ça ne devrait pas exister. Il faut lutter et aider les gens qui doivent subir ça. Je veux dire, effectivement, j'ai beaucoup de mal. Elle a beaucoup de courage pour parler aujourd'hui d'autant de violence. Mais à côté de ça, il y a aussi tout un panel de personnes qui n'ont pas, qui ont commencé l'activité dans des circonstances complètement différentes et pour des raisons totalement différentes. Pas forcément des raisons faciles au départ, mais certaines personnes sont là depuis 15-20 ans parce qu'au bout d'un moment, elles ont réalisé réellement que cette activité-là leur convenait mieux qu'une autre. Alors, c'est peut-être pas l'activité idéale, et je dirais jamais que c'est une activité idéale. Je conseillerais cette activité à personne, mais il faut aussi entendre que pour certaines personnes, et beaucoup, beaucoup de mes collègues, c'est l'activité qui leur convient le mieux, c'est l'activité qui est la moins pénible pour eux.
Pour
des tas de raisons, quand vous avez des problèmes de santé qui vous empêchent d'avoir des horaires normaux, parfois le travail sexuel est l'activité qui vous permet de travailler quand vous êtes en mesure de travailler et de vous reposer quand vous en avez besoin. Et ça aussi, il faut l'entendre. Et pour des femmes en situation de
précarité
extrême...
Mais pardon, est-ce qu'on peut
extrême,
faire ce métier comme on fait un autre métier? Vous qui avez été cadre, vous savez aussi, voilà, les horaires, le rythme, parfois la routine, etc.
C'est un métier
etc.
qui est très différent d'un travail de cadre.
Ben oui.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un métier classique? Je veux dire, chaque métier a ses spécificités. Celui-ci a des spécificités qui heurtent la morale publique. Mais pour certaines personnes, ça n'a pas d'enjeu. Je veux dire, moi, personnellement, ça n'a pas d'impact sur ma vie privée, par exemple.
Et quand vous demande quel est votre métier, vous le revendiquez?
Tout à fait, oui, c'est mon activité professionnelle. Et moi, je le vis bien et je lutte pour que les personnes qui l'exercent puissent l'exercer dans de bonnes conditions.
Je vous donne la parole juste après la pause, chère Sarah-Marie Maffesoli et Maître Spinozzi également, parce que pour comprendre aussi ce que dit Rosaine, j'aimerais comprendre ce que pourrait changer justement, ce que change la pénalisation des clients pour elle, parce que j'ai du mal à faire la logique aussi des choses, même si j'entends complètement sa souffrance et celle des deux jeunes filles qu'elle sort de la prostitution. On fait le tour de la question dans un instant, on revient.
Faut-il supprimer la loi sur la pénalisation des clients, des prostituées? On en parle avec Wendy Bouchard jusqu'à 10h.
Vous êtes 73% à nous dire qu'il ne faut plus pénaliser les clients des prostituées. Le Conseil constitutionnel, Maître Spinozzi, donnera sa réflexion le 1er février. À peu près, vous serez fondé sur le sujet. Juste un petit mot pour revenir sur ce que nous disait Rosane Hirscher, ancienne prostituée, sur le fait qu'elle a vomi son métier à un moment donné, qu'elle en est sortie après 20 ans. Mais pénalisation, dépénalisation du client n'y aurait rien changé, si j'ose dire, Maître Spinozzi.
C'est en tout cas ce que nous défendons. Moi j'entends évidemment la souffrance de toutes ces femmes. Il ne faut pas entrer dans la logique où on va scinder entre la bonne prostitution et la mauvaise prostitution. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Il y a effectivement des femmes prostituées qui ont eu un parcours qui était extraordinairement violent. Et c'est effectivement des cas qui sont des cas assez habituels. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la pénalisation de la clientèle aurait changé quoi que ce soit à cela? Qu'il faille aider les prostituées, qu'il faille proposer des parcours de sortie aux prostituées, à ceux qui, et à celles qui le veulent. Évidemment, mais pénaliser la clientèle de la prostitution, ça ne résoudra pas ces questions de violence. Et tout au contraire, tous les retours qu'on a depuis 2 ans, ça les augmente en fait. Et précisément parce que la pénalisation aboutit à l'isolement des prostituées. Donc cette idée de pénaliser en elle-même, en fait, elle n'apporte rien et elle ne soulage absolument pas la souffrance de toutes ces femmes qui travaillent dans la rue dans des conditions épouvantables.
Julie?
Moi, j'ai du mal à comprendre, en écoutant Rosaine, que quand on a été violée quand on était petite, à plusieurs reprises, quand on a subi des violences sexuelles, comment est-ce qu'on peut choisir d'être prostituée et pendant 20 ans en plus?
Rosaine?
Comment c'est possible? On devrait au contraire être dégoûté de tout ce travail du sexe. Mais
Rosaine Hirscher,
si on peut avoir le choix
de faire
un autre métier. Vous
pouvez répondre à la question de Julie aujourd'hui?
Rosaine,
on a été violée, quand on a été salie, quand on a été considérée comme une pute hein, et que la société ne nous écoute pas, bien évidemment qu'à un moment le cerveau se met en mode rébellion et qu'on va dans le sens de nos agresseurs. Tu m'as construite pute, et ben je vais te le montrer, j'en suis une. Et je peux vous assurer qu'en 88, si la loi avait existé, j'aurais été protégée. Et beaucoup des survivantes disent la même chose.
Merci Rosane. Bien sûr, allez-y.
Vous avez dit, Wendy Bouchard, quelque chose qui, malheureusement, je trouvais d'une violence sociale extrême. Pénaliser ou ne pas pénaliser les clients de la prostitution, ça ne changerait rien. Je vais vous dire, il y a une échelle fois 10 entre les pays.
J'ai posé la question.
Vous avez posé la question. Oui. Cette question, est d'une violence extrême.
Bah, peut-être, mais c'est
le taux de suicide.
Excusez-moi alors. Oui.
Le taux de suicide des personnes prostituées avant la loi en France, 12 fois plus élevé que celui de la population générale. Le taux de viol des personnes prostituées en France avant la loi, 6 fois plus élevé que la population générale. Mmh. En 2014, avant la loi, 8 personnes prostituées assassinées sur notre territoire. À chaque fois que le meurtrier est identifié, c'est un client de la prostitution. En Allemagne, 400 000 personnes prostituées contre 40 000 en France et contre moins de 2 000 en Suède. Pourquoi ? Parce que pourquoi des personnes sont contraintes à la prostitution? Pourquoi des personnes du monde entier, des Roumaines, des Bulgares, des Nigérianes, des Chinoises, sont trafiquées vers la France? Pour une seule et simple raison, les hommes payent pour du sexe. Quand vous pénalisez l'achat d'actes sexuels, c'est ce que la police suédoise a prouvé par écoute policière, vous rendez le marché mort. Les proxénètes et les trafiquants, c'est eux qui gèrent ce marché. C'est pas les travailleuses du sexe indépendantes qui le gèrent. Ces proxénètes et ces trafiquants investit dans les pays les plus rentables. Donc évidemment que non seulement quand vous interdisez l'achat d'un acte sexuel, vous mettez fin à une forme de violence sexuelle, parce que pénétrer quelqu'un qui n'a aucun désir pour vous mais qui a besoin de votre argent, c'est une violence sexuelle. Ça a des conséquences qui sont similaires au viol et c'est pour ça qu'il y a un taux de suicide des personnes.
J'entends Grégoire Théry, mais le fin mot de l'histoire aussi, c'est que c'est le statut même de la prostitution en France qui est légal, donc que vous remettez en cause au bout du
monde. Non, excusez-moi. Non, qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce que vous appelez la prostitution?
C'est une liberté sexe, d'entreprendre.
Acheter. Non, pour l'instant, le Conseil constitutionnel ne l'a pas dit, et vous verrez que le Conseil dira le contraire, justement. Le Conseil constitutionnel va dire que la prostitution relève de la violation de l'égalité entre les femmes et les hommes, relève d'une forme de violence.
Attendez, Maître Spinozzi, juste pour répondre à Grégoire Théry, la prostitution est légale aujourd'hui en France.
L'activité. Si vous êtes déclaré en tant que prostituée, vous avez vocation. Il y a des nomenclatures administratives à côté de la sous en travail personnel. Vous avez la possibilité de payer les impôts. Et d'ailleurs, si vous ne payez pas les impôts, vous allez être poursuivi et le fisc ira vous condamner.
Donc
évidemment, il y a une reconnaissance. La prostitution n'est pas interdite. L'exercice de la prostitution n'est pas interdit en France.
Petite pause avec Grégoire Théry, avec Rosane Hirscher, avec Sarah-Marie Maffesoli. Je vous donne la parole dans un instant. J'aimerais que vous répondiez aussi tous à Sylvie Berthe qui sur Twitter nous dit « On ne peut pas faire une loi pour une minorité de personnes, ici les prostituées qui choisissent de l'être. Une loi vise à protéger le plus grand nombre », c'est ce que dit Grégoire Théry et vous allez réagir sur le sujet. A tout de suite sur Europe.
Faut-il supprimer la loi de 2016 sanctionnant l'achat d'actes sexuels, autrement dit la pénalisation des clients et des prostituées? Encore quelques minutes pour en parler avec Wendy Bouchard.
3000 amendes ces trois dernières années, un texte qui prévoit donc cette amende pouvant aller jusqu'à 3 750 € en cas de récidive pour les clients des prostituées. Encore quelques minutes avec des travailleuses du sexe représentées ici, des pour, des contre, requérants et abolitionnistes. Et Sarah-Marie Maffesoli, vous êtes coordinatrice chez Médecins du Monde, une des associations à l'origine de cette question prioritaire de constitutionnalité déposée auprès du Conseil constitutionnel dont on attend la décision le 1er février. Vous voulez réagir sur les propos de Grégoire Théry il y a un instant?
Je vais simplement dire qu'on est tous d'accord sur le fait que les personnes qui souhaitent changer d'activité, il est très important de leur proposer des options. Et en fait, personne n'a attendu la loi du 13 avril 2016 pour le faire. Toutes les associations communautaires en France accompagnent déjà des personnes qui exercent le travail du sexe, qui souhaitent changer d'activité de manière totale ou partielle. Donc cet accompagnement est possible. Nous sommes tous d'accord qu'il est fondamental de lutter contre l'exploitation. Mais à un moment donné, quels sont les outils qui permettront de lutter contre l'exploitation? Ce n'est pas la pénalisation des clients. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est un éloignement des personnes qui nous donne moins accès aux personnes éventuellement victimes d'exploitation. Il faut interroger à un moment donné les politiques migratoires de la France. Si on veut lutter contre les réseaux d'exploitation des personnes, peut-être que l'enjeu, c'est aussi d'accorder des titres de séjour. Et on peut se féliciter que la loi accorde des titres de séjour aux personnes qui souhaitent sortir de la prostitution, mais on reste sur des titres de séjour précaires. Et on tarit pas, ce n'est pas vrai, la volonté migratoire de personnes qui souhaitent venir en France parce que les frontières sont fermées, elles doivent payer des prix de passage phénoménaux. Et à ce moment-là, ben oui, parfois, le travail sexuel... Elles exercent le travail sexuel et elles peuvent être victimes d'exploitation dans le cadre de ce travail pour rentrer en France. Donc maintenant, si on veut lutter véritablement contre la traite, et on est tous d'accord qu'il faut lutter contre la traite et contre l'exploitation, c'est une évidence, mais qu'on se donne les moyens de le faire et que nous n'ayons pas
agréé pour mettre en œuvre les parcours de sortie de la prostitution, c'est quand même extraordinaire.
Ça veut dire
vous avez refusé de prendre l'agrément national créé par la loi qui permet de présenter des dossiers de personnes qui veulent sortir de la prostitution pour leur octroyer des titres de séjour, et vous l'avez refusé pour des raisons idéologiques.
La loi était idéologique et requierait de notre association d'adopter une position qui n'est pas la nôtre, puisque nous avons une approche de réduction des risques et de non-jugement de l'activité.
Monsieur
Théry, je ne vous ai pas interrompu. Si vous pouviez me laisser terminer mon propos, ce serait très agréable. Nous avons choisi de ne pas nous ancrer dans une posture idéologique de la loi, effectivement. Néanmoins, nous avons beaucoup de partenaires vers lesquels nous pouvons...
C'est idéologique de croyer des titres de séjour et des aides financières aux personnes prostituées. Dans votre pragmatisme, il cache
nous pouvons orienter les personnes vers nos partenaires. Tous nos programmes orientent vers les partenaires qui ont un agrément. Il y a beaucoup d'associations communautaires qui ont.
Vous envoyez vers notre association.
On oriente plutôt vers les associations communautaires qui ont l'agrément également. En tout état de cause, l'enjeu de lutter contre l'exploitation est évident pour tout le monde. C'est faire un procès d'intention que de penser que nous ne serions pas contre ça. Simplement, il faut utiliser des moyens qui sont adaptés pour lutter contre l'exploitation. La pénalisation des clients accroît la vulnérabilité des personnes les plus vulnérables.
Merci. Et si l'on prend le modèle suédois, dont s'est inspiré aussi cette loi, Maître Spinozzi, on voit qu'en Suède, le marché n'a pas été tari, justement, contrairement à ce que nous souhaitons en France.
Dans la cartographie que propose M. Théry, on en revient toujours à l'idée qu'il y a un modèle repoussoir qui est le modèle allemand, qui est le modèle de la libéralisation, et le bon modèle qui est le modèle suédois, qui est le modèle abolitionniste. Et en réalité, donc cette loi de pénalisation des clients de la prostitution, elle est directement inspirée du modèle suédois, qui est en vigueur depuis une vingtaine d'années, et ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la Suède n'est pas un paradis où la prostitution a disparu et où il n'y a plus aucun réseau. Ça n'est pas vrai de le croire, et c'est ce qui est constaté aujourd'hui par l'ensemble des chiffres qui analysent l'augmentation de la prostitution en Suède. Alors, ça n'est pas une inflation, c'est certain, mais ça n'a pas permis la réduction qui était espérée.
Merci à tous. Voilà, le débat est loin d'être terminé, mais si vous voulez bien, on poursuivra le 1er février avec la décision du Conseil constitutionnel et on rouvrira éventuellement les échanges avec les mêmes interlocuteurs. Ça nous donnera l'occasion de prolonger encore un petit peu ce débat. Anaïs, merci. Adhérente du STRAS, Sarah-Marie Maffesoli pour Médecins du Monde, Grégoire Théry pour le mouvement du Nid, Patrice Spinozzi, maître et requérant dans cette affaire, et Rosane Hirscher, porte-parole du mouvement des survivantes. Merci à vous tous et à tout de suite, on va parler de cette semaine de sensibilisation à la dyslexie. Il y a 8% des enfants qui sont touchés. Beaucoup de parents qui veulent réagir aussi. À tout de suite, Julie.